remportons ces élections, tout va changer.
RPH déroule le tapis rouge à la 63e rencontre cinéma de Pézenas.
Το ερώτημα δεν είναι γιατί ασχολείται κάποιος με το κίνημα, αλλά γιατί δεν ασχολείται.
Retrouvez chaque jour les intervenants, les cinéastes et l'équipe du festival.
Ils font tout pour vous écraser, vous et l'espoir que vous représentez.
To break out of these chains is already a big win.
Bien cinématographique, salut pour les auditrices et les auditeurs de Radio Pays des Roues et RPH Sud. Dans le cadre de la 63e édition de la Rencontre Cinéma de Pézenas, nous avons déjà reçu un certain nombre des invités qui figurent sur la liste qu'ont voulu établir les animateurs de la manifestation. Cette fois-ci, nous avons droit à un invité double ou à deux invités. Il s'agit d'Abel et Gordon, que je voudrais d'abord remercier d'avoir accepté notre invitation à échanger avec nous pendant le temps de l'émission. Donc, Abel et Gordon, vous êtes un duo de comédiens.
Oui.
Oui.
Et vous venez, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu votre biographie, vous venez du cirque.
Pas cirque, mais. On est un peu liés au cirque, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés dans une école de théâtre gestuelle. Et donc, c'est pas tellement le milieu du cirque où tout est conçu pour être joué dans un rond. On travaille surtout dans un format plutôt théâtre, mais on utilise quand même pas mal de techniques sans doute qui sont populaires au cirque aussi.
Dominique Abel, vous êtes belge. Et Fiona Gordon, vous êtes canadienne née en Australie.
Oui.
Et quel meilleur endroit que Paris pour vous rencontrer.
Oui, on en a d'ailleurs fait presque le sujet d'un film qui s'appelle Paris pieds nus, qui est la rencontre de deux personnes célibataires là-bas. Et puis, on était émus de retrouver... parce que quand on est arrivé à Paris dans les années 80, ben, on ne connaissait pas trop, donc tout était merveilleux. L'eau, les ponts, la tour Eiffel, enfin, c'est une belle ville, quoi. Il y a de la lumière, c'est excitant. Et donc on s'est trouvé là. Moi je venais des sciences économiques. J'avais fini une université et je trouvais que bon, c'était bien, mais que je ne savais pas ce qui me manquait. Ce qui me manquait, c'était le physique. Et donc j'ai fait un stage de mime et tout de suite, je me suis dit, mais c'est ça, il faut que je fasse, que je sois acteur ou quelque chose. Et Fiona, ben, elle, c'est différent.
Moi, j'avais déjà fait le théâtre à l'université, mais bien avant de faire l'université, je voulais faire une école qui s'appelait Jacques Lecoq à Paris. Et c'est une école de théâtre, mais basée sur le mouvement, où on étudie tous les styles de théâtre, tragédie, comédie de l'art, mime, pantomime, clown, bouffon, tous les styles mélodrames, mais avec un point de vue physique. Traduire avec le corps tous ces styles. Et puis, on s'est rencontrés là.
Au début des années 80, à Paris, vous fondez une maison de production. Courage, mon amour. Vous avez commencé par le commencement, c'est-à-dire vous avez cherché des sous.
Oui,
avant de produire des spectacles.
Alors, en théâtre, il n'y a pas besoin de beaucoup de sous. C'était ça qui était marrant au début. On créait dans des lieux désaffectés, dans une cuisine, on créait des numéros, des morceaux. Et puis, je me souviens, les premières fois qu'on a présenté, on avait parfois un spectateur, deux spectateurs ou zéro. Et ça n'avait pas d'importance, en fait. Et là où il faut des sous, c'est en cinéma, plutôt. Mais bon, on a quand même fait des petits dossiers.
Il faut quand même.
Oui. C'était drôle parce qu'on tapait nos demandes à la machine. Quand on faisait une faute, il fallait recommencer toute la page où il n'y avait pas encore le Tippex. Et on avait une vieille machine qui venait de l'Est, des pays de l'Est. Elle était tellement puissante qu'elle trouait le papier.
Ah oui, ça arrivait des fois, oui.
Ouais.
Vous, donc là, vous produisez quatre spectacles.
Oui.
Vous assurez la mise en scène et puis c'est vous qui les jouez. Et vous vous êtes embarqué dans des tournées internationales pour les présenter.
Oui, on a beaucoup tourné. On a un spectacle qui s'appelle La danse des poules, qu'on a joué plus de 2000 fois.
C'est un joli score.
Oui, un peu partout. Et du coup, malgré le fait qu'on a pu commencer sans sous, en répétant comme Dominique dit dans la cuisine, on a fini quand même par faire une carrière qui n'était pas lucrative, mais où on vivait bien. Et on était plus peut-être camionneur qu'acteur quelque part, parce qu'on était tellement dans la camion avec notre décor, à aller à gauche et à droite. Finalement, on était sur scène très très peu par rapport à ce temps passé à voyager.
C'était quel type de spectacle que vous proposiez à ce moment-là?
C'était physique, comique, un duo sur scène, une histoire d'amour, c'est celui dont Fiona parle, une histoire d'amour un peu Roméo et Juliette, mais repensée par des clowns. Donc, toutes les moments importants, peut-être dans la rencontre entre deux personnes. Et c'était l'occasion de rire ensemble avec les gens et de se mettre dans des situations inextricables, enfin d'avoir des moments drôles, parce que le clown, c'est un peu, il représente un peu les personnes qui ratent tout, les personnes qui se sentent trop petites dans un monde qui est trop grand pour eux, ou qui sont trop lentes dans un monde où il faut être rapide. Et donc, voilà, c'est du clown, quoi. On avait des scènes, on buvait du champagne, on avait des scènes où on essayait de danser, des choses comme ça.
Il y avait des dialogues dans ces textes ou c'était uniquement du mime, du physique?
Il y avait un petit peu de dialogue, mais pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas calqué sur le mime à la Marceau, mais plutôt du théâtre, gestuel, et on s'empêchait de ne pas parler. Mais souvent, en travaillant, les mots disparaissaient petit à petit, il n'y avait presque pas de paroles. Mais ce qui est particulier par rapport à ce que nous on fait, c'est qu'au théâtre, parfois on avait une scène qui au début durait peut-être 30 minutes. Mais chaque fois qu'on présentait au public, ça évoluait un tout petit peu en fonction de leur réaction. Parfois ça arrivait à 5 ou 10 minutes même de jeu. Et donc on avait l'habitude de retravailler, en fonction de la réaction du public, d'améliorer ce qu'on faisait. Oui. Et donc ça, c'est toute une manière de créer qu'on garde encore maintenant, avec le désavantage qu'au cinéma, on ne peut pas essayer et puis remonter, ça coûte trop cher. Mais quand même, cette habitude de créer... progressivement, en intégrant différentes choses, c'était bien implanté.
Vous utilisiez donc les ressources de l'improvisation?
Oui, beaucoup en création, déjà sans que les gens soient là, donc chez nous. Et puis, comme elle dit, notre metteur en scène, c'est un peu le spectateur. Pas spécialement ce qu'il dit à la fin, parce qu'après, les avis divergent énormément de personne à personne, mais à travers les regards des spectateurs, la qualité du rire ou les réactions, c'est ça qui nous guidait. Ça nous permettait, avec 2000 représentations, il y a moyen d'essayer pas mal de choses.
À la fin, c'était une mécanique bien huilée. Au début, un peu brouillon et un peu ouvert, et on improvisait. Et au fur et à mesure qu'on trouvait les bons rythmes, les gags, l'atmosphère, ça se fixait et c'était très très méticuleux en fait à la fin.
Après avoir joué aussi souvent que vous avez dit avoir joué avec votre propre premier spectacle, hein, je n'ai pas le titre en tête, mais je sais qu'il y a des poules. quand on a joué un spectacle comme ça 2000 fois, ou même avant, on arrive quand même à, j'allais dire, à percevoir ce qui est essentiel et puis avoir la marge de manœuvre que donnent les réactions du public pour les présentations.
Exactement. On devient plus économe et aussi on est plus détendu parce qu'on connaît vraiment bien ce qu'on fait. Et parfois, la chose qui bloque quand on veut faire rire les gens, c'est quand ça ne marche pas. On se crispe en tant que comédien et ça devient pire en pire. Le plus qu'on se crispe, le pire c'est. Et avec les spectacles qu'on a joué beaucoup, on avait confiance. Et même parfois, quelque chose semblait ne pas marcher, on n'était pas inquiet parce qu'on avait confiance dans le matériel et le fait qu'il faut prendre son temps et petit à petit séduire le public, même quand c'était parfois un public très timide ou même hostile parfois.
Et sur quel thème vous aviez construit ces spectacles que vous avez tournés? Donc tout à l'heure, vous nous disiez qu'il y a des histoires d'amour.
Oui, alors ça a toujours été des histoires d'amour, on en avait 4 ou 5, je pense. À part qu'il y en avait une, c'était une histoire de haine, et ça marchait, c'était celui qui marchait le moins bien, et un petit peu à la fin, on l'a retransformé en histoire d'amour. Mais oui, après, ça peut être un polar, par exemple, un évadé, quelqu'un qui s'évade de prison, qui trouve refuge dans l'appartement d'une femme, ce genre de choses. On a fait une pièce qui s'appelle « Histoire sans gravité », des gens qui sont pris par les Martiens et qui sont jetés sur la Lune, un homme et une femme, parce que les Martiens veulent savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils boivent et surtout comment ils se reproduisent. Et voilà, et c'est ce genre de spectacle.
Toujours simple pour donner l'espace de jouer, en fait. Parce que quand on se lance dans une construction, qui fait que trop de rebondissements ou des exigences narratives, on n'a pas le temps de se reposer sur un jeu qui peut prendre longtemps. Donc on veille à ce que ça reste simple.
Une trame simple qui sert de colonne vertébrale à tout après, tout ce qui vous vient spontanément comme ça, soit par l'expérience du fait que vous avez déjà joué les spectacles, soit par les réactions des publics sur le moment.
Oui.
Ces spectacles, vous les tournez encore?
On a arrêté en 2015. On commençait à faire des courts-métrages dans les années 90, comme on dit chez nous. Oui, et puis, on a fait les deux, quoi. Et puis, à un moment où le cinéma prenait le dessus, et on jouait moins souvent, et on sentait que le fait de jouer moins souvent, c'est comme les footballeurs ou autres, on joue moins bien. Et donc, on s'est dit, bon, allez, on range les décors, et on verra bien un jour si on les ressort. Mais en tout cas, depuis 2015, on ne fait que du cinéma.
Vous avez gardé des captations de l'époque ou
c'est non,
simplement
presque ça, pas.
Dans vos mémoires.
C'est, on était un peu contre les captations, parce qu'on trouvait que ce qui était fort quand on jouait devant les gens ne se transmettait pas dans les captations. Ce n'est pas le cas avec certains spectacles qui sont très esthétiques, mais nous, on n'avait presque pas de décor, il y avait juste nous et quelques éléments. Et donc, on n'avait aucun cadre qui pourrait remplacer ce manque de la complicité avec les gens. Et donc, on refusait souvent de reproduire.
C'est que les captations figent un instant.
Un peu, oui.
Oui, puis c'est pas fait pour être filmé. Parce que nous, on était inspirés sur scène par les clowns du cinéma muet, plutôt.
Oui.
De Chaplin, Keaton, Tati, tout ça. Laurel et Hardy. Et donc, on aimait bien leur monde cinématographique. Et puis, on voyait bien que quand les télévisions venaient nous filmer sur scène, c'était pas la même chose. C'était pas écrit pour être filmé. Et donc on avait l'air trop gros, on parlait trop fort. Et aussi, on a compris assez vite que même on voulait au début faire des courts-métrages et utiliser des morceaux de ce qu'on avait fait sur scène, des trucs qui tenaient vraiment bien sur scène. Et puis on s'est rendu compte que c'était pas possible parce que sur scène, on a un timing qui est lié aux réactions du public. Le public est un peu comme une musique et on les regarde et il y a un temps pour le public et un temps pour nous. Et quand on fait du cinéma, il n'y a plus ce temps-là. Le public n'est plus là. Et donc, il faut réécrire, il faut aller repartir de la page blanche.
C'est un peu ce qui nous a stimulés pour faire du cinéma. D'ailleurs, on était frustrés de ces captations qui n'étaient pas bonnes. L'envie aussi de faire quelque chose de fini, un objet qui est un film. Donc, on a, plutôt que de faire des captations, on a changé de registre, à changer de format.
Avec un autre vocabulaire, celui du cinéma,
ouais.
Et pas celui du spectacle.
Oui, exactement.
Je pense que c'est pas la même écriture.
Non, mais non. Tout en gardant le fond théâtral, qui était aussi le fond de les grands du burlesque dont je parlais avant. Ils avaient cette capacité de presque enfantine. Enfin, quand on est sur scène, la convention théâtrale est importante, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès au réel. On ne peut pas se balader dans une gare et puis aller dans un bois. Il faut tout faire semblant, tout est faux. Et donc on doit amener un imaginaire pour faire comprendre aux gens qu'il y a du vent, il n'y a pas de vent, tout ça. Et ça interroge l'imaginaire des spectateurs aussi. Il y a un jeu d'aller-retour comme ça. Et au cinéma, au début, je ne sais pas, pendant longtemps, ils ont gardé cette qualité-là, et puis ils ont été plus vers le naturalisme, le réalisme, au point où maintenant, quand nous, on est arrivé avec notre envie de faire un cinéma qui est très, très artisanal et très inspiré du théâtre, on nous disait « ce n'est pas du cinéma ». Et on leur disait « mais si, regardez, tous les pionniers du cinéma, ils l'ont fait ». Et donc on voulait garder ça, ce côté... on n'essaie pas d'utiliser la technique du cinéma pour imprimer un rythme. On n'essaie pas de souligner les émotions par la musique et des choses comme ça. Mais plutôt de rester attentif à des corps et de voir ce que des corps racontent et comment on peut être drôle physiquement.
Oui, parce que passer du spectacle vivant comme... vous le proposiez dans un premier temps au spectacle, enfin, à la réalisation de films, ça suppose d'apprendre le langage cinématographique.
Oui, quand même, on était un peu perdu au début parce que on essayait, comme Dominique a dit tout à l'heure, de transformer nos sketchs, le sketch qui était dans les spectacles, au cinéma, et ça marchait très mal. Et c'était seulement quand on a compris qu'il fallait tout laisser tomber. Et de travailler avec le cadre, même si on ne connaissait rien, mais on expérimentait avec cette idée qu'il faut que ça fonctionne dans ce cadre, même si le cadre est mouvant parfois. Et là, on commençait à pouvoir créer quelque chose qu'on trouvait intéressant et qui valait le coup d'être partagé.
Alors, vous avez commencé par des courts-métrages.
Oui.
Peut-être histoire de vous faire la même, histoire de réaliser les apprentissages nécessaires, avant de passer à des œuvres plus longues, plus importantes, qui sont des films, carrément.
Mm-hmm. C'est pas très différent, en fait, en termes d'organisation, de mise en œuvre, parce que quand on fait un cours, il faut quand même toute l'équipe. Il faut des spécialistes à tous les niveaux, il y a quand même de l'éclairage, du son, de la caméra et tout ça, l'organisation. Mais bon, dans notre domaine clownesque, la forme courte est plus facile, plus évidente. D'ailleurs, quand on pense à ces Chaplin et autres, c'était souvent des films d'une bobine, c'était maximum, je sais pas, 20 ou 40 minutes. Oui, et les très bons, les films purement burlesques, comme par exemple Le Cirque de Chaplin, je pense que c'est 55 minutes ou un truc comme ça. Après ça, si on veut tenir un peu plus sur la longueur, on voit que Chaplin, par exemple, il a amené le mélodrame, il a amené un autre niveau, un narratif, et donc, c'est ça qu'on a appris en passant du court au long.
Dans la conversation qu'on a, là, on se rend compte que la place que le physique occupe, le corps. Et vous lui avez laissé une place aussi importante dans le cinéma, où vous avez écrit des dialogues plus importants,
En écrivant, il y a parfois un peu de dialogue, pas énorme non plus. Mais en répétant, souvent, on laisse tomber le dialogue, comme on faisait au théâtre aussi, parce qu'on était plus doués, je pense, pour autre chose que le dialogue, et on trouve aussi que le monde dans lequel on ne sait pas quoi dire, ou qu'on a dit trop, ou au mauvais moment, c'est ça qui est intéressant dans les relations entre les personnes. La parole fixe les sentiments, et pour certaines... cinéastes, ils ont quelque chose à dire, et d'une façon précise, ça c'est très bien. Nous, c'est plus diffus, et donc on raconte avec le corps, qui raconte énormément de choses beaucoup plus...
illimitées.
Vastes, oui. On peut interpréter de mille façons différentes, et ça nous plaît, cette ouverture dans l'interprétation.
Oui. Ça repose quand même sur une réflexion importante sur ce que vous voulez transmettre. Alors, peut-être pas par le dire, mais par le geste, par...
Oui, c'est ce que Fiona a dit, là, c'est le côté souterrain. Souvent, la parole, elle précise les choses, alors que les sentiments, ils sont beaucoup plus diffus. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les films dialogués. Hein. On adore ça, mais... Par exemple, on a présenté ici en carte blanche « I know where I am going »,« Je sais où je vais », de Powell et Pressburger. Et là, c'est plutôt de la comédie, donc ça va vite, les mots sont importants, il y a de l'ironie, ça fuse, et on adore ça. Mais en clown, c'est un peu le contraire, il faut prendre le risque de foirer au niveau du timing. C'est ça qui fait rire souvent, et de se rattraper par une pirouette après...
Quand on dit de vous que vous êtes des rares acteurs des arts du mime et du geste contemporain, ça vous convient ?
Bah, oui.
Acteur, oui.
Dans le sens où, oui, c'est ça qu'on fait. Et on a on est lié. On essaie de ne pas imiter les pionniers, parce que ça ne sert à rien. Mais on se considère quand même comme les petits-enfants de ces gens-là. Donc, quand le disent, ça ne fait pas un problème, pas du tout.
Mais on n'est pas des rares acteurs, parce qu'sur la scène, dans les arts vivants, il y en a des tonnes. Oui. C'est ça qui est étonnant, c'est que le burlesque, il est très vivant sur scène, et même dans la publicité, il y a beaucoup d'humour et de gags. Et en fait, en cinéma, il y en a beaucoup moins. Et parfois, on se dit, mais pourquoi il n'y en a pas beaucoup ? Il y a des gens, il y a peut-être Benigni, il y en a quand même quelques-uns, Bentamer ou d'autres, qui font du... Après, Tati, il y a eu peu. Et pourquoi ? On ne sait pas. Si, on sait peut-être. C'est-à-dire que pour faire un film, il faut des budgets, parce qu'il y a une équipe nécessaire. Et quand on se présente au guichet, comme on dit, donc aux gens qui peuvent donner de l'argent, c'est un comité de lecture. Et souvent, ils demandent des scènes dialoguées. Alors déjà, des scènes dialoguées, pour nous, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais en plus, transmettre par les mots le clown, c'est bizarre. C'est comme si on vous dit d'écrire une danse contemporaine par des mots. Il avance le pied, il recule le pied, il lève la main, il baisse le bras. Enfin, c'est embêtant à lire.
Ou de décrire une blague, ça aussi, ça marche pas.
Ça tue la blague.
Ça tue la blague. Donc, mais il y a cette difficulté. Et c'est pour ça, peut-être, que beaucoup de personnes sont sûrement découragées dans l'idée de faire du cinéma physique. Mais une autre raison, c'est que les pionniers, ils avaient un patrimoine de gags et de trucs et des astuces venant du vaudeville et du théâtre. Ils ont exploité tout ça au cinéma. Et une fois qu'ils ont fait ça, bon, il faut passer à des choses nouvelles. Tati, il a trouvé en introduisant l'homme de tous les jours et les travers du quotidien dans son cinéma. Lui, il disait, c'est pas moi le clown, c'est le monde qui sont clown, le monde est clownesque. Et donc ça, c'était très nouveau. Et alors maintenant, quoi faire de plus ? Nous, on se dit, on essaie d'exploiter nos propres personnalités, nos faiblesses, nos forces, pour faire rire et émouvoir les gens avec nos personnalités. Au niveau stylistique, c'est pas sûr qu'on est très innovateur.
Quand on passe à Champlin, dans ses réalisations, dans les films qu'il a réalisés, il y a quand même un message, que j'allais dire, politique. Vous avez travaillé sur ce sens-là, ou c'était simplement la transmission d'émotions
C'est ce qu'il y a en dessous des clowns, hein, de tous les clowns, je pense. Mm-hmm. Quand je disais les gens trop petits dans un monde où il faut être grand ou inefficace, où il faut être efficace, c'est ça, c'est ça le message, un peu le côté... d'ailleurs, beaucoup de ces clowns-là, c'était des gens petits physiquement, trop petits dans un monde qui devait regarder du bas vers le haut. Et Tati, c'est un peu trop grand. Il disait, je suis un peu comme un noble désargenté qui ne sait plus trop quoi faire, à quoi je sers dans cette société.
C'est vrai que de temps en temps, on avait l'impression d'un adolescent qui avait grandi trop vite.
Oui, voilà, inadapté chronique. Et ben, c'est ça. Et donc, on représente ça, alors que ce soit politique, pas vraiment, mais un peu pamphlétaire quand même. On sait de qui on parle. Quoi.
Oui, et l'air de rien, nous, on absorbe ce qui est autour de nous et ça ressort dans les films. Donc, en fait, pour ne pas avoir une approche trop, trop didactique, on dit en anglais, mais en français, on essaie pas de marteler le message, mais on sait qu'il est là et on a l'œil, l'oreille ouverte vers des métaphores qui peuvent transmettre quelque chose de politique quand même.
C'est une manière d'en parler, mais on parle. Enfin, ici, il y a Costa Gavras qui est passé.
Ah oui.
Lui, il y va frontalement et c'est génial. C'est chacun sa manière d'aborder.
Mais nous, on va de billets. Oui. On veut faire rire et derrière, il y a quelque chose. On peut réfléchir à quelque chose, mais il faut quand même que ça soit drôle.
Ça va bien à ce que j'ai remarqué, enfin que j'ai remarqué aussi. Vous utilisez l'humour. C'est peut-être un vecteur particulièrement efficace.
Oui, c'est moins divisif que la parole, parce qu'il y a des gens qui ont des avis différents dans le monde, et de plus en plus maintenant. très divergents. Donc si on peut les rassembler avec un message humaniste, mais à travers le rire, ça nous fait plaisir.
Il y en a qui disent, qui parlent de chemin de guérison, mais le rire, il est souvent lié à ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est, à mon avis, dans les périodes difficiles, mais même dans les enterrements, dans tout ça, que quand on est un peu submergé et qu'on est perdu, le rire, il arrive, il court-circuite un peu le cerveau, dans un sens. C'est pour ça que les gens rient collectivement. C'est souvent lié à la surprise, et puis aussi au fait d'être... le dramatique est lié au rire. En tout cas, parfois on dit que c'est une parade face au côté insupportable ou au côté trop gras, aux choses trop graves, mais je pense qu'il y a de ça. Je sais pas, on n'a pas l'habitude de mettre des mots, mais ça a pour moi, ça a une grande valeur, le rire.
Quelque chose aussi que les spectateurs trouvent dans vos propositions, c'est la poésie. Je suppose qu'on ne fait pas de la poésie pour faire de la poésie. C'est un ensemble
qui va
amener le climat poétique que les spectateurs prisent
quand
ils sont en face de vos spectacles.
Oui, c'est pas un but qu'on essaie d'atteindre, mais on a toujours aimé les gags qui sont liés à quelque chose qui nous touche. Parfois, en tournée, on nous demande « faites-nous rire avec quelque chose », mais on n'en est pas capable. Parce que pour nous, les gags sont dans un contexte où la personne est en difficulté ou qui a une image parlante et qui a du sens et qui finalement qui a une poésie.
Oui, et puis le gag doit arriver, sans préparation. On saisit quelque chose sur le moment. Et on l'utilise pour aller vers ça. Quoi.
Oui, il y a une spontanéité qui doit être. Enfin, on aime bien un bon gag, hein, quelqu'un qui rentre dans un poteau, comme tout le monde, qui se glisse. Mais ça ne suffit pas pour moi de faire quelque chose de vraiment satisfaisant. Il faut que ça soit dans une situation qui...
On a vu comment vous vous situiez par rapport au texte, hein, malgré formation théâtrale et tout ça. Vous êtes un petit peu méfiant par rapport aux mots, et quand vous pouvez vous en passer, parce que vous avez trouvé une autre façon de dire les choses qu'avec des mots, vous la saisissez. On a vu l'importance de la gestuelle dans tout ce que vous faites. Quelle est la place de la musique, hein?
Alors souvent, c'était... sur scène, on avait toujours des danses. Et les trois premiers courts-métrages et peut-être le premier long, on avait fait assez peu de danse. Et puis on s'est dit, mais pourquoi pas? Parce que sur scène, c'est pour exprimer quelque chose, quoi. Et physiquement. Et l'amour, le bonheur, je sais pas. Et donc on a commencé à danser plus dans les films. Là, on utilisait la musique. Au début, on n'était pas tellement pour mettre de la musique pour souligner l'émotion ou pour la provoquer. Parce qu'on trouvait que c'était... La musique de nos films, c'est un peu le rire des spectateurs, c'est leur... Et on préférait que, je ne sais pas, les respirations, des moments de plus d'épures comme ça. Mais ça dépend des fois. Le dernier film qu'on a fait, on a eu le plaisir de travailler avec Birds on a Wire. C'est deux femmes qui font de la musique, super, très jolie voix, très belle musique. Et donc on l'a utilisé un peu plus et... Bon, chaque film est un essai différent.
Pour nous, la musique, c'est un peu comme un autre personnage. Donc, on n'utilise pas pour lier comme beaucoup de cinéastes font. C'est très utile pour ça. On l'utilise plus comme un autre partenaire avec qui on dialogue dans le film. Dans une chanson, dans une danse, ou à des moments précis. Mais pas comme quelque chose qui est...
Au moment où il faut...
Oui, c'est ça.
Ouais.
Parce qu'on aime bien le silence aussi, ou bien le bruit des gens font en faisant des choses. C'est une musique aussi pour nous.
Oui, c'est ça. Dans le cadre de la 63e rencontre Cinéma de Cazenès, vous allez présenter quatre films, un dont on a parlé tout à l'heure, et trois films, bien sûr, qui sont à vous. Trois Amigos, 1986, Rumba, 2008, et La Fée, 2011.
Oui.
Il y a eu une évolution dans vos productions. Vous avez senti que les choses...
Les trois amigos, ce n'est pas de nous, c'est de John Landis. Ah, c'est une carte blanche, ouais.
C'est un peu la carte blanche.
Ouais, voilà. On avait deux cartes blanches ici, ça, c'en est une. Et on était très contents qu'ils aient réussi à retrouver ce film-là parce que c'est vraiment du vaudeville. Enfin, je sais pas, c'est du comique pur. Il y a aussi des danses, il y a aussi du chant. Enfin, c'est un petit bijou pour nous. En tout cas, on aime bien se le revoir de temps en temps. Ça fait juste du bien, quoi. Et après ça, nous, on a commencé plus tard. Hein, enfin, donc on a fait 25 ans de scène. Donc on a commencé assez tard, en fait. On a fait notre premier long en 2004, je pense. Et puis tous les 4-5 ans, on sort un nouveau long.
Évolution, c'est, on est peut-être... Oui, on évolue sûrement, j'espère. Mais parfois... On sait pas vraiment contrôler ça. Au début, notre premier film, c'était 40 plans-séquences et presque pas de gros plans, même de plans moyens. C'était 40 plans-séquences et c'était assez fort comme choix, assez radical. Et le film a eu pas mal de succès dans les festivals à cause de cette radicalité. En montant, on avait des problèmes parce qu'un plan séquence, s'il y a un problème au milieu, on ne peut rien faire. Donc, on était coincés et on s'est dit, on aurait bien fait quand même de prévoir des alternatives et une façon de monter pour ne pas être complètement prisonnier de ça. Et donc, on a commencé un petit peu à jouer. Mais on a quand même toujours gardé cet amour pour une scène qui commence de A à Z sans l'intervention des coupes. Parce que du coup, on est avec l'acteur et on suit l'acteur ou les acteurs dans leur trajectoire. Et même s'il y a une petite faiblesse au milieu, il y a quelque chose d'entier, d'honnête par rapport à ça. Mais bon, maintenant, on est un peu plus prévoyant par rapport à ce problème dont j'ai parlé.
Pour terminer cet entretien, je ne peux pas ne pas vous poser la question de savoir sur quoi vous travaillez actuellement. Quels sont vos projets ?
On est en écriture d'un nouveau qui s'appellera probablement Robot. Et ça se passe dans le futur. Et c'est une bande de robots d'occasion, des espèces de prototypes ratés ou... Des robots usés qui vont resservir pour le temps d'une fête, le temps d'une fête chez des ultra-riches.
On retrouve là l'originalité qu'on a déjà constatée précédemment, parce que c'est quand même très excitant et très... ça nous rend très impatients de voir le résultat, parce que présenté comme ça, déjà, c'est...
Ben nous aussi, parce on l'écrit, puis après il faut essayer. C'est toute une partie passionnante, c'est qu'on lance des idées, parfois c'est complètement farfelu, et puis il faut le faire, quoi. Il faut trouver les costumes, le rythme, le jeu, et tout, c'est passionnant.
Bien, écoutez, je vous remercie.
Merci à vous.
Merci d'avoir accepté de passer ces quelques instants en compagnie des auditrices et des auditeurs de Radio Pays des Roues et RPH Sud. On a fait de plus en plus connaissance avec vous, avec votre travail, avec ce que vous avez réalisé, avec ce que vous avez en projet de réaliser. Ce fut un plaisir.
Je suis persuadé
que pour les auditrices et les auditeurs de Radio Pays des Roues, il en sera de même. Merci beaucoup.
Merci.